France Inter.
Giuseppe Santoliquido et Christine Orban, bonjour à tous les deux.
Bonjour Lila.
Pourquoi écrivez-vous, Christine ?
J'écris parce que je crois que je préfère le monde imaginaire au monde réel.
Et vous, Giuseppe ?
Je dirais par nécessité. C'est-à-dire que si je n'écris pas, je suis perdu, je ne sais pas quoi faire.
Si vous étiez un livre, quel en serait le titre, Giuseppe ?
Un livre, je dirais, de chair et d'encre. Ça mêlerait la réalité et l'imaginaire littéraire.
Et vous, Christine ?
J'aime bien un de mes titres, qui est « N'oublie pas d'être heureuse », on oublie si souvent.
Une qualité indispensable pour écrire, Christine ?
Aimer la solitude.
Giuseppe ?
La constance.
Un défaut indispensable pour écrire ?
La fabulation.
Et vous ?
C'est Jean d'Ormesson qui m'a dit « Si tu veux être écrivain, j'avais 18 ans, il faut absolument que tu sois ambitieuse et surtout paresseuse. » Alors je me suis dit « Ah bon ?» Et quelques années plus tard, je mets ce petit mot dans un de mes livres, les petites phrases pour traverser la vie. Il me dit « Tu as vu comme je me suis trompée, il ne faut pas du tout être ambitieux et pas du tout paresseux. »
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, etc. Lilia Hassel.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Etc. Aujourd'hui, une émission à la première personne. Il sera question de filiation, de figures tutélaires, aimées, absentes, défaillantes, et des récits que l'on tisse pour réparer le passé. Deux livres, deux voix, l'une masculine revient sur la lente réconciliation d'un fils avec son père, l'autre féminine imagine ce que Diana Spencer aurait pu dire si elle avait tenu la plume. Dans Le don du père, l'auteur belge Giuseppe Santoliquido remonte le fil d'un héritage invisible, celui des gestes, des silences, des échecs tuent. Dans ce texte d'une sensibilité rare, il brosse le portrait d'un homme modeste et brisé, son père, et tente de faire de l'écriture un acte de gratitude. Dans Mademoiselle Spencer, Christine Orban redonne une voix à la jeune Diana, une voix intérieure, romanesque, libre, celle d'une adolescente blessée, propulsée malgré elle dans un huis clos monarchique, un texte bouleversant où Mademoiselle Else, l'héroïne de l'écrivain autrichien Schnitzler, devient double de Lady Di. Vous l'aurez compris, nos romanciers du jour s'intéressent à l'enfant, la mémoire, les silences et à ce que nous faisons ou pas de nos héritages. On parlera de tout cela avec eux avant de recevoir, comme chaque semaine, nos libraires francophones pour les questions et conseils de lecture. Vous écoutez Etc. C'est parti.
Etc.
Christine Orban, Giuseppe Santoliquido, rebonjour.
Rebonjour.
Tous les deux. Je le disais dans mon introduction, vous avez tous les deux écrit des livres à la première personne, ce qui peut être assez vertigineux. Giuseppe Santoliquido, votre livre est à la fois un voyage dans la mémoire familiale entre la Belgique et l'Italie et un chant d'amour, de réconciliation, une offrande à votre père, ce père vieillissant, abîmé par une vie de labeur. Et pourtant, malgré la charge émotionnelle, vous réussissez à garder une forme de pudeur, de distance juste. Comment on écrit sur et pour son père sans se laisser déborder ?
Je dois dire que pour ce texte-ci, j'ai été saisi par une forme d'urgence, puisque mon père, le diagnostic de sa maladie est tombé. Et là, j'avais déjà essayé d'écrire sur lui, mais comme disait Céline, ça ne tenait pas sur la page. Et j'ai eu la chance avec mon précédent roman d'être souvent invité dans des écoles. J'en ai fait vraiment beaucoup et souvent arrivait la question de la vocation littéraire. Et comme je n'ai jamais eu de vocation littéraire, on parlait de mes expériences avec les jeunes, avec les étudiants. Et m'est venu, suite à une question qui m'a été posée, je me suis remémoré que mon père, lui, avait eu une vocation.
D'avocat.
Il avait 14 ans, c'était un élève brillant, il voulait entreprendre des études. La paroisse, qui était un grand facteur d'intégration en Belgique dans les années 50, pour les immigrés italiens, était disposée à financer une partie de ses études, et ainsi de suite. Et mon grand-père a refusé, disant « Mais j'ai trois fils, si je dois financer les études de l'un, je devrais aussi financer les études des deux autres. Et donc, il ne pourra pas étudier, il sera mécanicien, l'autre fils sera électricien, et le troisième sera ajusteur. » Mon père, en réaction à ce moment-là à quitter la maison pendant quelques jours, et puis surtout à quitter l'école, et est allé travailler, il est rentré dans le premier commerce qu'il a croisé, c'était un garage automobile, ça aurait pu être une droguerie, une ébénisterie, ça n'aurait absolument rien changé, et donc il est devenu mécanicien, et j'ai vécu avec un père qui toute sa vie m'a dit, moi je n'ai jamais aimé ce que je faisais, donc qui était triste, malheureux.
Et vous avez suivi votre vocation?
Oui, voilà, c'est ça. Et moi, j'ai fait le chemin inverse. Tardivement, mais j'ai fait le chemin inverse. Et là, j'ai eu une clé de lecture, alors, plutôt une porte d'entrée sur un récit, sur le récit filial, qui a coïncidé avec la maladie de mon père. Donc, c'était une forme d'urgence qui m'a saisi à ce moment-là.
C'était la porte d'entrée qui vous manquait jusqu'à présent.
Oui, c'est ça. J'avais essayé à plusieurs reprises, ça ne marchait pas.
Et justement, ce don du père, c'est aussi un don au père. Vous lui dédiez ce texte explicitement, et je me suis demandé, est-ce qu'un livre n'est pas toujours, même de façon secrète, une lettre adressée à quelqu'un ?
Oui, c'est déjà une lettre adressée à soi-même, souvent, pour essayer de déchiffrer, de comprendre le monde, les gens qui nous entourent. C'est un exercice de réparation, quelquefois, donc l'écriture peut endosser différents rôles. Ici, je dirais que c'est une forme d'hommage à un homme dont j'ai découvert les qualités et la générosité très tardivement, parce que nos relations étaient longtemps compliquées. J'étais moi-même très autocentré, arrogant, ambitieux, comme on disait tout à l'heure. Et donc, je ne voyais pas les trésors qui étaient cachés en lui. Et lorsque je les ai découverts, je me suis dit, il faut lui rendre hommage par la littérature.
Faut en témoigner.
En témoigner, mais lui rendre hommage par la littérature.
Christine Orban, vous aussi, vous avez écrit à la première personne, vous incarnez Lady Diana, et lui prêtez votre voix. Je crois que personne n'avait osé faire ça, du moins pas sous cette forme, et encore moins de manière aussi littéraire. Mais j'imagine que c'était un défi de trouver le ton juste. Comment vous avez fait ?
Oui, c'était en effet un défi. Et je viens de trouver, il y a deux jours, en fait, pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune raison au monde pour que je m'intéresse à Diana Spencer.
Mais c'était ma question suivante, oui.
Surtout après Jacqueline Pascal, après Virginia Woolf, il n'y avait aucune raison. Après aussi Marie-Antoinette. Mais tout d'un coup, elle m'est apparue évidente. En fait, je me glisse dans la peau d'une femme que je veux continuer, qui est morte beaucoup trop jeune, et comme par hasard, à 36 ans. Et ma petite sœur, je lui ai consacré un livre, L'âme sœur, est morte aussi à 36 ans. Et tout d'un coup, comme Marie-Antoinette, comme Jacqueline Pascal, ça m'a été évident. Donc c'est une chose très profonde en moi, ce besoin de continuer ces vies de femmes. Donc, de ma sœur, j'ai jamais pu parler, sauf en anglais, quand le livre a été traduit par Random House aux États-Unis. Je n'ai jamais pu parler du livre de ma sœur. Maintenant, 20 ans est passé, et sur ma sœur, je peux en parler un peu. Mais je pense que le lien, c'est celui-là. Donc, j'ai vraiment vécu Diana de l'intérieur, un peu comme une petite sœur. Et j'ai essayé de comprendre ce qui lui arrivait. Et au fond, son drame est assez commun, ça peut se passer dans n'importe quel milieu. Il se trouve que ça prend des proportions parce que c'est dans la royauté britannique. Mais aimer un homme qui ne vous aime pas, ça peut se passer partout.
C'est assez banal. Alors je vais être honnête avec vous, quand j'ai reçu votre manuscrit, j'ai eu peur.
Oui, moi aussi.
Je me suis dit, oh non, pas Diana, pas encore. J'avais l'impression d'avoir tout lu, qu'on avait déjà tout écrit. Et puis finalement, je ne l'ai pas lâché. Voilà, on entre dedans très facilement, et puis c'est vraiment addictif, c'est une lecture très addictive, parce que le texte est vivant, il est incarné, il est tendre. Est-ce que vous avez eu cette peur, vous aussi, au début ?
Oui, j'aurais jamais écrit sur elle, je pense, mais je pense qu'il était aussi le moment d'abandonner les a priori. J'ai toujours lutté, dans tous mes livres, contre les a priori faits aux femmes. Et elle en a, évidemment. Alors elle aurait manipulé la presse. Et j'avais le même pour plusieurs de mes héroïnes, enfin d'autres, qu'elles étaient trop coquettes, trop ceci, trop cela. Et là, j'ai voulu voir de près qu'est-ce qui se passait chez cette femme. Et j'ai essayé de vraiment la comprendre de l'intérieur.
Qu'est-ce qui vous intriguait ?
Ce qui m'intriguait, c'est...
Parce qu'on a déjà dit tellement de choses sur elle.
Ah oui, mais il y a tellement de choses qu'on n'a pas comprises, c'est qu'elle a retourné, il faut une telle violence, le couteau contre elle, qu'elle s'est scarifiée, qu'elle s'est ouvert les cuisses, la poitrine, qu'elle s'est jetée enceinte dans les escaliers. Donc, quel traumatisme elle traîne, qui est celui de l'abandon, justement, et on verra ça, mais ça prend des proportions terribles. Si elle n'est pas aimée de Charles, elle ne peut pas s'aimer elle-même. Et vous parliez d'autobiographie, au fond, ou de s'adresser à une seule personne, soi-même, son père. Là, elle s'adresse à Charles jusqu'à la BBC. C'est à lui qu'elle parle. Il y a 23 millions de téléspectateurs, mais c'est à lui qu'elle
toujours
parle.
Toujours des messages adressés à l'homme qui ne l'aime pas. Christine Armand, Giuseppe Santoliquido, vous restez avec nous dans un instant. On entrera plus en détail dans vos textes. Mais avant ça, on écoute Loose and the Yakuza, Good to Know.
Peuvent se casser. Est-ce que les miettes d'un cœur peuvent encore être mangées? Je me demande ce qui se serait vraiment passé si on s'était dit tout le fond de notre pensée. La folie des non-dits et des paroles en vue, la manie de mentir pour se jeter la pierre. On se fend ça et poli, on ne sait plus quoi faire. J'ai envie de partir.
Vous écoutez Etc. et nous sommes toujours en compagnie de Christine Orban et Giuseppe Santoliquido. Christine Orban, dans cette émission, nous recevons des libraires chaque semaine. Et cette semaine, on accueille une nouvelle libraire, Valérie Rochette, de la librairie Un Monde à Soi à Roanne, en Auvergne. Valérie, bonjour.
Bonjour. Bonjour Lilia, bonjour Christine Orban.
Bonjour. Alors le livre de Christine Orban, vous le recommandez à tout le monde dans votre librairie, je crois.
Oui. Bon, comme beaucoup, j'avoue, je suis fascinée par la vie de Didi. Et puis, malgré tout ce que je croyais savoir, je me suis laissée surprendre et embarquer dès les premières lignes de ce roman. C'est vrai qu'en choisissant de dire je, et donc de placer notre regard dans celui de Diana, Christine Orban, vous nous obligez à changer radicalement de point de vue. Et c'est une belle surprise que ce livre. Et donc, oui, à la librairie, je ne le présente pas comme un livre sur les Didi, mais un livre de les Didi. On découvre ses fêlures d'enfant, puis de jeune fille. Elle était vraiment très jeune, très très jeune, quand elle devient l'objet de cette manipulation odieuse.
Et qu'est-ce que vous avez appris justement dans ce livre, Valérie ?
ce que j'ai relevé et qui m'a bouleversée, c'est que Diana, alors loin de l'image de la princesse qu'on a fait d'elle, qu'on a vu passer partout, c'est surtout une victime. Elle a été victime d'un système ultra-patriarcal, ultra-violent, hérité d'un autre temps. C'est un système qui a permis à une élite de sélectionner une jeune fille comme on choisit une reproductrice. Elle a été l'objet d'un marché méprisable, de petits arrangements entre celles et ceux qui avaient le pouvoir, qui en ont usé pour abuser d'une jeune fille romantique, profondément romantique. Et ce que j'ai compris aussi, c'est que Diana était en état de sidération face à Charles. Et je pense que c'est un terme important parce qu'il explique l'apparente docilité qu'elle affichait. Et j'ai mesuré aussi combien aujourd'hui nos regards, nos jugements ont changé face au comportement inacceptable d'un homme, d'autant plus protégé par son rang. Et aujourd'hui, ça ne passerait plus. Bref, je tenais à vous féliciter, Christine Orban. Merci beaucoup pour ce roman. Le ton de la confidence confère une profondeur inédite à ce personnage qu'on croit connaître. C'est un livre qui vous happe comme un huis clos psychologique. C'est aussi une analyse sans concession d'une société patriarcale. Et que les femmes, malgré tout, continuent à subir, alors par habitude, par politesse, sûrement une forme de loyauté également.
Christine Orban, vous voulez réagir ?
Oui, surtout, je pense que Diana était conditionnée pour un mariage royal. Alors, est-ce qu'elle était libre ? Ça, on peut vraiment se poser la question. En tout cas, elle a eu le courage d'une héroïne de roman. Les héroïnes de la vie réelle ont peur de la société, du qu'en dira-t-on. Elle a donné un grand coup de pied, un peu. C'est pour ça que je fais le parallèle avec Mademoiselle Else, pour ceux qui ont lu Schnitzer. Elle a le courage d'aller jusqu'au bout et elle veut la vérité. Elle va devant l'émission Panorama et là, elle va tout déballer, mais des choses, on n'a jamais dit des choses comme ça, que Charles n'est pas capable d'être roi, qu'ils étaient trois dans le mariage, qu'elle adore son amant. C'est vraiment...
C'est un personnage de roman.
Complètement un personnage. Elle devient là un personnage de roman complètement. Et je préfère arrêter là parce qu'après, elle part un peu en vrille. Elle s'est mariée à 19 ans, elle ne connaît pas vraiment la vie et elle veut être libre. Libre, c'est un mot merveilleux, mais elle ne s'est pas volée. On lui ouvre la porte de la cage, on lui dit de partir et là c'est dramatique.
Et Valérie, vous aviez une question à poser à Christine Orban.
Oui, Christine Orban, je voudrais savoir en fait dans quel état d'esprit vous étiez en posant un point final à ce roman.
Je suis presque toujours triste de quitter mes héroïnes, mais je vais vous dire une chose, je ne les quitte plus jamais. Je suis très amie avec Virginia Woolf, très amie avec Jacqueline Pascal et Blaise. Ils font partie de ma famille. Et maintenant, c'est bizarre, vous voyez. Mais Diana, j'ai de la tendresse pour elle, pour ses erreurs. Je pense que l'avantage de cette histoire, c'est qu'il n'y aura plus de mariage arrangé. Parce que les deux victimes, c'est Charles et elle. Et le grand amour, c'est Charles,
c'est
évidemment,
Camilla.
Et Camilla. Et elle a été une pauvre victime comme Charles.
Et justement, au sujet de Charles, vous aviez une question, Valérie, aussi.
Oui, et bon, si vous aviez une question à poser à Charles, si vous pouviez lui poser une question, ou même peut-être à Camilla, quelle serait-elle ?
Je ne sais pas s'ils aimeraient me voir, finalement, parce que j'ai l'impression que Diana n'est pas un bon souvenir, mais il va falloir qu'ils s'habituent, c'est que ça va être quand même la mère du prochain roi. Et j'espère qu'avec le temps, les choses se sont apaisées. Mais je pense qu'ils ont vraiment été très en colère quand elle a tout balancé devant la BBC. Mais elle était extraordinaire quand même. Elle avait vraiment peur de rien parce que quand on sait comment elle a manigancé ça à Kensington, il fallait vraiment qu'elle en ait gros sur le cœur. Bon, j'espère qu'ils l'ont pardonné. Voilà.
Merci beaucoup. Merci Valérie. Je le disais en début d'émission, on est tout de suite happé par votre texte, Christine Orban. Et pour donner envie à nos auditeurs, j'aimerais que vous nous lisiez un passage essentiel du livre, un passage très dur, je trouve, qui se trouve au tout début, l'abandon d'une mère, la mère de Diana, qui laisse ses enfants derrière elle. Je vous propose de le lire et on en parle ensuite.
Elle nous a embrassés tous les quatre, tour à tour, sur une seule joue, pour aller plus vite. J'ai à peine eu le temps de respirer son parfum, de sentir le froid de ses boucles d'oreilles sur mon visage, et elle a dévalé l'escalier tout en promettant de venir nous voir. Charles m'a regardé, incrédule, l'empreinte du rouge à lèvres de notre mère sur la joue. Les promesses faites sans regarder dans les yeux ne valent rien, disait Granny. Pour une fois, elle avait raison. Je me suis assise sur les marches, je l'ai regardée monter dans la voiture. Le maître d'hôtel a fermé la portière, puis le coffre. Fini les baisers de maman le soir, les Noëls en famille, les œufs de Pâques dans les buissons. Il ne m'en resterait que le souvenir. Elle a laissé ses quatre enfants sans nous adresser un signe de la main. Sarah, Jane et Charles sont remontés dans leur chambre. Moi, je suis restée dans l'escalier.
Alors, c'est terrible. En quoi cette scène est fondatrice pour l'avenir de Diana ?
Elle est fondatrice du traumatisme, de l'abandon que va développer Diana. Peut-être que si elle avait été légère, c'est difficile, mais plus philosophe, disons, avec les premières difficultés à laisser son ex, Camilla. Donc, si Charles avait été un peu plus habile et elle plus compréhensible, mais elle est traumatisée. Je pense que cette scène-là, le départ de sa mère, qui va vraiment abandonner ses enfants pour un autre homme, va la marquer à vie. Alors, est-ce qu'elle elle exagère ? Est-ce que, en tout cas, elle ne supporte pas de ne pas être aimée ? Alors, j'ai essayé de tirer Diana aussi vers le haut. C'est vrai qu'on en a presque assez. Elle a été à la une, je crois qu'elle a eu 53 couvertures de Paris Match. Elle a eu tous les records. C'est une des trois personnes les plus populaires et les plus connues au monde. En même temps, c'est un mystère, parce que une jeune femme princesse, il y en a des beaucoup jolies, mais elle est restée dans les mémoires, peut-être à cause de sa transformation. C'est rare, cette transformation, cette jeune fille anglaise un petit peu lourde, qui va devenir une bombe, on va la comparer à Marilyn des années 80, et qui va aussi se transformer moralement. Elle est timide, elle est cachée derrière Charles, et c'est elle qui va convoquer la BBC pour tout déballer avec une harne. Elle va devenir une valkyrie. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait pour qu'elle devienne comme ça ? Alors, le livre, c'est ça aussi. Comment s'opère la transformation de cette femme,
et aussi... Et d'où ça vient aussi.
Et d'où ça vient, de la faire accéder au rang de l'histoire. Alors, c'est peut-être un peu tôt, mais elle est morte il y a presque 30 ans, et je trouve qu'il y en a assez de parler de Diana comme juste une personne people. Elle est plus que ça. Elle est restée une des trois personnes les plus marquantes et les plus connues au monde, la reine des cœurs pour beaucoup d'Anglais. Donc, il y a quelque chose, et j'essaie de percer le mystère aussi de ce charme. Parce que Carol Oates l'explique très bien en parlant de Marilyn. Elle dit que Marilyn se trouvait au début de sa carrière moche. Et la presse, le public va lui ouvrir les bras et va lui dire « Marilyn, on t'aime ». Il se passe exactement la même chose pour Diana. Le public est là.
C'est
Diana,
c'est mystérieux.
On t'aime. Il l'aime. Et donc, elle va se détourner forcément vers ceux qui lui ouvrent les bras. Et c'est comme ça, on va dire qu'elle manipule la presse. Mais non, elle a besoin d'être aimée, elle a besoin de chaleur. Et forcément, elle va faire de l'ombre à Charles. Et forcément, il va lui en vouloir. Et la reine va lui en vouloir aussi. Parce qu'elle va prendre la lumière.
Giuseppe Santoliquido, dans votre livre, on trouve aussi une scène fondatrice. Scène fondatrice du grand malentendu entre le père et le fils. Et cette scène, c'est celle de la moisson.
Oui.
À Gallinaro. Est-ce que vous accepteriez de nous raconter ce qui s'est passé ce jour-là avant de nous en lire un extrait ?
Oui, j'étais très très jeune et donc mes parents étaient rentrés en Italie. Mes parents ont immigré avant ma naissance en Italie. Et puis, comme beaucoup d'immigrés italiens de la région des bassins miniers, ils avaient un rêve, c'était de rentrer au village. Donc, au bout de quelques années, ils ont vendu le petit appartement et le petit garage automobile que mon père avait pour rentrer au village. Et là, ça s'est très, très mal passé. Parce que c'était... Bon, d'abord, mon père était mécanicien, on est rentré. Le choix stratégique n'était pas extrêmement opportun, puisque dans un petit village où il passait une voiture toutes les trois heures pour un garagiste, c'était quand même pas l'idéal. Et puis, il ne s'y passait rien. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, il ne s'y passe rien. Le premier hôpital est à 30 km, il n'y a pas de théâtre, pas de cinéma, c'est vraiment le sud profond de l'Italie. Et donc, mon père était malheureux, ne voulait pas rentrer en Italie, mais ma mère, qui avait immigré plus tard, l'avait parvenu à le persuader. Donc, nous voilà en Italie, et il y a effectivement une scène quand je suis enfant qui se passe pendant les moissons.
Une rencontre
je rencontre une petite jeune fille qui a mon âge, on s'éloigne, on va s'isoler, et ma mère comprend, elle nous suit, et elle nous surprend, alors qu'on batifolait, on va dire, et mon père se trouvait quelques mètres derrière elle, et c'est ma mère qui essaie de résoudre le problème, et qui contraint mon père à parler, mais comme souvent, il ne dit rien, si vous voulez.
Alors, je vous laisse lire le passage.
D'accord. Mon père reste muet, regarde ma mère, nous des visages, Maria et moi, pose de nouveau les yeux sur sa femme. Ce sont souvent des épisodes anodins qui sont décisifs dans notre vie, des péripéties qui tiennent à presque rien, aux enjeux imperceptibles, alors qu'un rien, justement, à cet instant précis, aurait pu changer le cours des choses. Ce presque rien, ce jour-là, se terre dans l'inaction de mon père. J'ai longtemps pensé, par la suite, que s'il était intervenu avec résolution, parvenant à désamorcer la colère de ma mère d'une phrase nette, tranchante, du type « Laisse tomber, je m'en occupe, on va régler ça entre hommes », une complicité immédiate, absolue, se serait sans doute installée entre lui et moi. Une complicité qui aurait perduré dans mon adolescence, dans ma vie de jeune adulte. Le fait est qu'il s'est contenté de hausser les épaules dans un geste d'impuissance, et son silence, sur le moment, m'a paru obscur, définitif, comme si quelque chose qui resterait longtemps irrésolu s'interposait entre nous, avec pour vocation de s'y enraciner.
Alors c'est superbement écrit, mais vous racontez là une faille de transmission.
C'est-à-dire que j'ai grandi avec une image de mon père qui était celle d'un homme faible, effacé.
Silencieux.
Silencieux, mélancolique, et qui ne correspondait pas évidemment au type d'homme qui m'entourait, mes oncles, même mon grand-père. J'avais un grand-père qui était promené avec un chapeau constamment, en costume cravate, une sorte d'Alain Delon dans Le Samouraï, oui, qui parlait, les femmes ne pouvaient pas parler. Donc vraiment, le patriarche dans toute sa splendeur et dans toute sa...
Le latin.
Oui, le latin dans toute sa splendeur, qui contient une sorte de violence contenue, comme ça, constamment. Et mon père était, lui, l'inverse. Et donc, il était pour moi celui auquel je ne voulais pas ressembler. Je trouvais qu'il était... Mon grand-père s'est suicidé, donc il a grandi avec une maman qui était restée veuve très jeune, qui était une forme mère italienne aussi, dans toute la caricature. Puis il a marié ma mère, qui était une belle femme, beaucoup plus jeune de lui. Et moi, je trouvais qu'il était comme ça, sous l'emprise de sa mère et puis de sa femme. Et donc, ça me faisait, bien sûr, l'aimer, mais en tout cas, pas l'admirer.
En vous lisant l'un l'autre, je me disais que l'écriture avait sans doute un peu à voir avec la psychanalyse. Est-ce que vous faites ce rapprochement, vous aussi, Christine Normand ?
Oui, évidemment. Je pense qu'on écrit aussi parce que, enfin, dans mon cas, parce que j'étais une enfant mélancolique. Et j'ai cherché dans la lecture des réconforts et sûrement dans l'écriture une façon de comprendre les autres et parfois au travers des autres me comprendre aussi, ce qui aide beaucoup dans la vie. Mais oui, c'est sûrement une psychanalyse, oui, évidemment.
Il y a de ça. Je suis d'accord avec Christine. En tout cas, ce sont des clés de lecture, tant dans les ouvrages, mais plus encore par l'écriture. Parce que là, je trouve qu'il y a quelque chose qui relève presque du miracle, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va écrire. C'est l'acte d'écrire qui produit la pensée. C'est ahurissant, parce que c'est donc de l'ordre de faire ressurgir l'inconscient par l'acte d'écrire, comme la psychanalyse le fait par la parole. Donc évidemment, ça nous permet de... Moi, ça me permet de comprendre le monde dans lequel je vis, et de me comprendre moi, de comprendre mon entourage, et de répondre quelque part à une forme d'insatisfaction, parce que quelqu'un qui est parfaitement, bon, pas tourné autour du pot, quelqu'un qui est parfaitement bien dans sa peau, il passe pas 3-4 heures par jour,
le dos
voûté au-dessus d'une table, il sort, il boit, il mange,
il profite
de la vie.
Mais alors, je sais pas, vous, parce que vous écrivez tous les deux, moi j'ai du mal, quand j'ai fini un livre, à transformer les mots écrits en mots parlés. Et c'est un vrai travail sur moi.
C'est pour ça que vous écrivez ? C'est
oui,
précisément pour ça.
Je suis plus à l'aise dans l'écriture et quand il faut, pour moi, c'est comme parler une autre langue.
Oui,
parce qu'on est enfermé dans l'écriture.
Ce sont deux exercices totalement différents.
Totalement. Et des fois, je me dis, mais qu'est-ce que tu as été mauvaise à l'oral ?
Et les mots choisis pour relater un événement lors d'une rencontre ou lors d'une émission de radio comme ça ne sont pas du tout les mêmes que ceux que l'on choisira à l'écrit, que ceux qui nous viennent à l'écrit.
Pas du tout.
Bah, c'est intéressant, on va continuer à en parler dans quelques instants, Giuseppe Santoliquido et Christine Normand, puisqu'on fera un tour du côté de vos ateliers d'écriture.
Ça m'a griffé comme une épine.
instantané. Divine, ça m'a laissé une trace infime, presque effacée.
Écoutez, etc. C'était Juliette Armanet, l'épine, et nous sommes toujours en compagnie de Christine Orban et Giuseppe Santo Liquido. C'est l'heure de l'atelier d'écriture.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, etc. Lilia Hassen.
Christine Orban, dans votre roman, vous faites dialoguer Lady Di avec Mademoiselle Else, l'héroïne de l'écrivain autrichien Arthur Schnitzler. Mademoiselle Else, c'est une nouvelle magnifique parue en 1924 qui raconte comment une jeune fille issue de la bourgeoisie et se retrouve envoyée par sa mère pour séduire un vieil homme afin de sauver sa famille de la ruine. Qu'est-ce que ce personnage d'Else vous permettait de raconter sur Diana ?
Pour moi, c'était évident. Je suis sortie de Mademoiselle Else, qui était donnée au théâtre de poche, et j'ai dit, je vais écrire Mademoiselle Spencer. Et mon mari m'a regardée en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que je suis très fascinée par ces femmes qui ont la main du destin qui tombe dessus. Et j'adore, j'aime bien Schnitzler et cette nouvelle particulièrement. Et on sent pendant tout la lecture de cette nouvelle, qu'elle peut pas se sortir. Le destin est là. Et j'ai eu la même impression en retraçant la vie de Diana. Elle peut pas s'en sortir. À chaque fois, comme Marie-Antoinette, c'est la mauvaise décision, c'est la mauvaise porte qui s'ouvre. Elles sont absolument happées par le destin. Et c'est une chose qui, la prédestination aussi, qui m'a toujours fascinée. Surtout que je crois qu'on peut changer les choses. Moi, j'étais née au Maroc, j'étais faite pour être un loukoum au bord d'une piscine et je me suis sauvée. Mais ça a été très très dur. Je suis venue toute seule à Paris. Alors après, on dit que je suis snob, mais non, j'étais entourée de snobs, c'était très dur, j'étais une petite Marocaine. Et je me dis, au fond, on peut dire non.
Et mais Diana a dit non, mais le destin l'a rattrapée,
elle,
non ?
Elle a dit non, le destin est là, elle a dit non beaucoup trop tard, elle a dit non, la veille du mariage, elle s'aperçoit que Charles, son fiancé, a offert un bracelet à Camilla. Et donc, elle dit à sa sœur, je ne veux pas me marier. Elle dit, mais c'est trop tard, je t'avais dit de ne pas l'épouser. Elle-même avait été choisie, parce que c'est une famille...
Mais est-ce que c'était vraiment trop tard ?
C'était trop tard, la robe était faite, il y avait 3000 invités, c'était la veille, c'était impossible. Et sa sœur lui dit, mais il y a ta tête sur tous les tasses à thé d'Angleterre, tu ne peux plus.
Donc elle ne pouvait pas s'en sortir au fond.
Elle ne peut pas s'en sortir, à chaque fois, elle ne peut pas s'en sortir, sauf sa libération serait devant la BBC quand elle envoie un grand coup de pied, elle met à mal même la monarchie. C'est fou, c'est vraiment là, elle
vient tard, donc ça vient brutalement.
Le personnage de Schnitzer aussi, Mademoiselle Els, qui elle va se donner la mort, mais là aussi, elle se suicide, c'est une forme de suicide. Mais oui, sociale, puis en plus, elle ne veut pas divorcer. Alors c'était vraiment pas la chose à faire.
Giuseppe, vous y croyez, vous, au destin ?
Je ne suis pas tout à fait d'accord, en tout cas, avec Christine. Je pense qu'on ne peut pas toujours dire non. C'est-à-dire que certaines personnes sont taillées malgré toutes les vicissitudes auxquelles qu'elles peuvent rencontrer ou les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Certaines personnes sont taillées pour dire non.
Mais vous avez dit non.
Oui, mon père pas.
Votre père, c'est le destin qui a décidé, en tout cas.
Non, il aurait voulu, il n'avait pas la force, je pense, de le faire. Nous ne sommes pas égaux face à la volonté, et nous ne sommes pas égaux face à la force, et nous ne sommes pas égaux dans le bras de fer qu'on peut mener avec le déterminisme.
Mais je pense aussi, dans la vie de Marie-Antoinette, le destin est là, et voilà, très très moment, fort. Oui, et Diana aussi, et Mademoiselle Els aussi. J'adore l'idée aussi de mélanger les personnages de romans avec ceux de la vie réelle. Oui, parce que les personnages de romans peuvent être plus vrais encore que les personnages de la vie réelle.
Si je prends le cas de mon père, l'amour qu'il portait, c'est l'amour qui s'est refermé sur lui comme un piège. L'amour et la loyauté, c'est-à-dire que voilà quelqu'un qui, pour ne pas désobéir à son père, et pour ne pas le faire souffrir, et pour ne pas le mettre dans une situation qui aurait été une sorte d'irrespect à son égard, il n'a pas dit non. C'est-à-dire, il n'a pas dit non. Et l'amour s'est refermé, l'amour et la loyauté se sont refermés sur lui, comme deux pièges qui l'ont encastré pour le restant de ses jours. Et moi, j'ai grandi avec un père qui était évidemment très aimant, mais qui, en tout cas, me disait tous les jours, je mène une vie professionnelle et sociale, en tous les cas, que je n'aime pas. Et ça, c'est terrible. Moi, j'ai dit tout à l'heure, j'allais beaucoup dans les écoles. Oui. Déjà, choisir son destin, combien de personnes sont portées par une vocation ? Si vous allez vous rencontrer des jeunes de 17-18 ans dans les écoles, mais leur demander à cet âge-là de faire des choix scolaires, des choix professionnels qui vont engager le restant de leur jour, mais c'est pratiquement inhumain. Ils n'ont pas on n'a pas la maturité à cet âge. Alors, on est bien d'accord.
Effectivement.
Je sais, j'ai des amis qui, à 10 ans, me disaient « je veux devenir médecin » et ils le sont devenus. Mmh. Mais c'est tout de même un pourcentage relativement faible. Donc, on y va en tâtonnant. Et le destin vous cueille comme ça au détour d'une hésitation, souvent. Et puis, il vous emporte.
Giuseppe Santoliquido, j'aimerais qu'on entre désormais plus en détail dans votre livre. Et pour cela, direction la Belgique, avec une libraire que vous connaissez bien, puisqu'elle vous a reçue à la sortie de votre livre. Bonjour Aurélie Vergieux.
Bonjour Lilia, bonjour Giuseppe.
Bonjour.
Vous travaillez à la librairie Molière à Charleroi et vous êtes une fan absolue du livre de Giuseppe et d'ailleurs, je crois, de ses livres précédents.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, je suis super contente de vous entendre ici, Giuseppe, parce que j'ai très très envie que votre livre soit lu par le plus grand nombre, parce que j'ai vraiment adoré.
Merci.
J'avais déjà adoré votre précédent roman, hein, L'été sans retour, et j'avais hâte de retrouver votre plume très esthétique, et surtout cette fois, j'étais curieuse parce que ce n'était pas de la fiction, mais un récit très intime à la première personne, comme on l'a dit, où vous parlez de vos liens avec votre père, Gérardo. On l'a dit aussi, un enfant d'émigré, élevé à la dure, il a vécu sans aimer ce qu'il faisait, sans passion. Et vous, en grandissant, vous vous êtes mis à mépriser cette vie un peu subie par votre père. Vous le trouviez faible et parfois même vous en aviez honte. Et du coup, je trouve qu'aujourd'hui, alors que votre papa est vieillissant et malade, je trouve que c'est terriblement touchant cette démarche que vous avez eue dans cette écriture où vous semblez dire que vous avez eu honte. Vous avez honte d'aujourd'hui d'avoir eu honte. Et en écrivant sur la vie de votre père, vous découvrez un homme avec ses failles, ses imperfections, et vous parvenez à vous en émouvoir quand vous cessez enfin de le considérer comme un modèle raté. Vous le réhabilitez, vous lui donnez une existence au-delà du rôle paternel, Et en écrivant sur lui, votre père devient en plus un peu votre personnage. Vous lui donnez une certaine forme d'éternité. Et puis surtout, une fois qu'il est débarrassé de sa fonction de modèle paternel, on sent l'amour que vous lui portez. Vraiment l'amour et la compassion pour un homme qui n'a pas pu réaliser son rêve. Et c'est aussi ça que je retiens après avoir terminé la lecture de votre livre. Que vaut une vie vécue sans rêve ? Bref, merci de nous avoir rappelé par ce récit qu'on sent très sincère et authentique, qu'il faut dire aux gens qu'on aime qu'on les aime, tant qu'il est encore temps, et qu'il ne faut pas renoncer à poursuivre ses rêves. Et finalement, c'est ça, le don du père.
Giuseppe, c'est le résumé parfait, non ?
Parfait, elle est parfaite. Je retournerai plus souvent à Charleroi.
Aurélie Vergieux, vous avez une question à poser à Giuseppe.
Quand on s'est vu à Charleroi, Giuseppe, vous m'avez confié que vous étiez un peu inquiet à l'idée que votre père lise ce livre. Vous aviez peur de sa réaction. Alors je voulais savoir si, entre-temps, il a eu l'occasion de le lire et s'il vous en a parlé ensuite.
Oui, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à écrire le livre, le diagnostic vital était lourdement entamé. Je n'aurais pas parié un euro sur le fait que mon père puisse être là lorsque l'ouvrage sortirait. Et donc, effectivement, alors là, le temps a passé et il est toujours là, Dieu merci. Et donc, comme c'est un livre, je pense que ce genre de livre ne vaut que si on va au bout de ce que l'on veut dire et qu'on le fait avec authenticité, donc pour reciter Céline à nouveau, en mettant ses tripes sur la table, parce que sinon, je pense que ça n'aurait pas grand intérêt. Et donc, effectivement, j'ai écrit sur lui, comme on écrit sur quelqu'un qui est sans doute déjà mort, et donc on ne cache rien à son égard. Et donc je craignais effectivement, je n'endormais pas la nuit, quelques jours avant la sortie, je me dis, mais comment il va prendre ça? Et finalement, il l'a lu récemment, et il m'a dit, bon, les vieux Italiens sont à voir en mots. Hein. Donc il m'a dit, c'est très bien écrit, c'était déjà un premier compliment. Et puis il m'a dit, c'est la vérité. Donc c'est une forme d'adoubement.
C'est un beau compliment,
déjà
ça,
énorme.
Non
oui, c'était déjà énorme. Mais rien d'autre, c'est quelques mots.
Christine Normand, c'est un bon compliment, c'est la vérité.
Oui, c'est la vérité, mais il ne faut pas trop s'approcher parfois de la vérité, parce qu'elle éclaire tout. Disait Victor Hugo, mais elle ne se laisse pas approcher. Et c'est ce que va faire Diana, au fond, elle va vouloir aussi casser le conte de fées. Elle veut que la vérité soit sue, et elle va se brûler totalement, parce qu'elle ne s'est pas volée, oui. Et on va, comme je disais tout à l'heure, lui ouvrir la cage.
L'exercice est compliqué, parce que dans le cas de mon père, c'est une vérité, donc ce n'est pas nécessairement la sienne, mais se voir décrit par un proche.
Oui, c'est difficile,
ça. Et voir comment on a été perçu tout au long de sa vie, ça, je pense que ça n'a pas... C'est simple pour personne. Donc, c'est compliqué.
C'est un compliment.
C'est un compliment, oui. Ouais. Mais ça pose la question de savoir, au fond, est-ce qu'on est capable d'aimer les gens pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'on voudrait qu'ils soient. Et ça, on y arrive, comme le disait très bien Aurélie, mais c'est grâce à l'écriture, notamment.
En tout cas, il s'est reconnu.
Je suis parvenu. Pardon ?
Il s'est reconnu.
Il s'est reconnu, oui, ça oui, il s'est reconnu, oui, oui, oui.
C'est la définition de l'amour, aimer l'autre tel qu'il est.
Ah oui, oui, c'est compliqué.
Essayer de le transformer.
Amour filial, amical, sentimental, oui, c'est très compliqué, parce qu'on projette. Et ce qui pose des problèmes, c'est les attentes, c'est ce qui a compliqué la relation avec mon père, c'est que je projette.
Mais ce qui est fou, c'est que c'est vous qui attendiez.
Oui, les problèmes,
habituellement, dans les relations père-fils, c'est le père qui attend de son fils. Et là, c'est vous qui attendiez de votre père.
Vous croyez oui, ça sans doute. Mais je pense, même les enfants, on projette. D'ailleurs, on voudrait qu'ils soient des super-héros. Chez moi, c'était très fort, oui.
Alors, la question de la mort est omniprésente dans votre texte. Il y a un passage qui m'a beaucoup touchée. Avant qu'on retrouve nos libraires, je voulais juste le lire rapidement. Votre père vient d'apprendre de la bouche du médecin que ses poumons sont très endommagés à cause des produits toxiques respirés quand il était mécanicien. Là encore, c'est encore une fois le destin, on peut dire ça. Et vous écrivez... Accablé par l'incertitude, mon père l'écoutait de sa présence de chair endolorie, de souffle court et de fatigue. Derrière le vert de ses lunettes, le bleu de ses yeux semblait avoir perdu de son éclat au profit d'un blême reflet lunaire, presque translucide. Incapable de combattre l'angoisse qui l'empoignait, il ne disait rien. Le silence entrait en lui comme si la vie commençait à manquer à sa vie. Un mot solitaire planait pourtant au-dessus de nous, au-dedans de nous, un mot que nul ne nommerait jamais, à la densité plus noire qu'une nuit d'hiver. Alors, j'ai trouvé ce passage magnifique et je me disais que vos textes à tous les deux étaient très incarnés. Il y a de votre côté le corps malade du père et du côté de Christine Orban, le corps scruté, exposé, désiré, abîmé, rejeté de Lady Di. Est-ce que vous veillez tous les deux à cette dimension charnelle de l'écriture, Giuseppe ?
Oui, oui, tout à fait. Non, dans tous mes écrits, je veille à donner corps, une chair. Oui, oui, incarner, à donner une âme, oui, je pense que c'est fondamental dans la littérature que j'aime, en tout cas. À mes yeux, c'est vraiment fondamental. Il faut que les personnages existent. D'ailleurs, quand j'ai écrit sur mon père, c'était un problème, parce que je confondais, au bout d'un moment, la personne et le personnage, si vous voulez. Et donc, c'était un personnage, comme si c'était un personnage de fiction qui vivait près de moi. Donc, c'était facile et difficile à la fois.
Et pour vous, Christine Orban ?
J'ai plongé dans la chair en écrivant « J'étais l'origine du monde ». J'ai vraiment décrit ce tableau 45 sur 55 centimètres et les efforts de Courbet pour retrouver la chair. Là, c'était plus compliqué, c'était plus intimidant. En effet, il faut que je t'écrive avant la nuit de noces, par exemple, et puis le lendemain avec le prince Charles. Alors, j'ai décrit une chose, c'est comment elle est tombée amoureuse. Et qu'est-ce qui se passe ? J'ai remarqué qu'il avait les yeux bleu marine et les oreilles évidemment décollées. Et j'ai trouvé ses oreilles décollées extrêmement attendrissante, parce que c'est comme une fragilité, il y a quelque chose d'enfantin, et je me dis que au fond ça l'a peut-être rassuré qu'il ait les oreilles un peu décollées, et puis ce regard bleu marine. Alors j'ai été obligée d'incarner, mais quand même il s'agit du roi d'Angleterre, il faut y aller mollo.
Vous êtes obligée de projeter un petit peu, oui.
Donc, l'imperfection physique tempérer un peu l'aura royale.
Absolument, je trouve que l'imperfection physique
ça l'humanise.
Humanisée et rassurée. Ouais. Je l'ai ressenti comme ça, comme je me suis glissée dans Diana. J'ai ressenti cette émotion-là en le regardant. Vraiment, les yeux dans les yeux.
Bon, merci à tous les deux, merci Aurélie Vergieux. On se retrouve dans quelques instants, mais avant on écoute Mero, I Think.
Comme la Loire, je me tiens au courant de la loi. Si je veux, je me lève, je m'assois. Occupe de toi, je m'occupe de ma foi. Le prix de l'or, le prix du gasoil. J'ai pris du time en rééducation. Le pétard, je vais pas enlever du caleçon. Terreur, je vais rentrer dans le bassin. Si ton flow on le retrouve dans la braderie, le mien dans la galerie, te rappelle ce que je t'ai appris. Si ton flow on le retrouve dans la braderie, le mien dans la galerie, te rappelle ce que je t'ai appris. J'suis dans le rap depuis qu'il est moche, depuis qu'il est moche et pas à la mode. J'suis dans le rap depuis qu'il est moche et pas à la mode. Un coup d'œil, je reconnais la fraude. Je viens de Genève comme tous mes frères. MAIR, ce n'est pas le GOAT. Je suis un misérable comme tous les autres. Si tu me demandes, la réponse sera sec. Ce n'est pas privé, je balance à la secte. On peut te traîner en justice, on peut te traîner de la cave à la scène.
Fais sonner ma ligne, ma ligne. Fais sonner ma ligne, ma ligne. Fais sonner ma ligne, ma ligne. Fais sonner ma ligne. Ma bille, il faut ma bille. Ma chance, ma bille. Il faut ma bille. Ma bille, il faut ma bille. Ma bille, il faut ma bille.
Comme à Athènes, je porte le monde sur mon dos comme Atlas. Qu'est-ce que tu m'attelas depuis le baptême? Je suis OP, je rappe depuis longtemps, je fais plus les sons à thème. Du riz et des patates et des haricots. Je mets les crampons pour les matchs amicaux. Je connais la beucara, je connais les parages. Nika les barrages. MIR, c'est nouveau baraque. Faut que la nouvelle baraque elle soit baraque. Faut que je sois blindé jusqu'à la rate. Le marathon continue, je suis plus dans le démarrage. Là. Pour niquer le bénéf, depuis que j'ai une stache au-dessus de mes lèvres, une hache au-dessus de mes rêves, je me dis que c'est pas si mal d'ouvrir une supérette. La légende dit que bientôt on sera riche, je préfère qu'on contrarie, on rarie. Plutôt qu'on me laisse le passage en passat, de toute façon je vais pas la ramener sur Paris. Bientôt je pose mes affaires à l'ambassade, on resserra demain, on verra. Pour les serrages demain, les embrassades, les hectares et la pierre, je ne pense qu'à ça.
yeah, je pense qu'à ça. Briquet, j'allume, ordi, j'allume. Dans la pièce, à que moi, dire remplaçable. J'ai le mic, le bic et la hache. Pour un app, me piquer ma place. Le silex éclairci dans la grotte. Et il te chie anesthésie, ma grotte.
Ma ligne, fais sonner ma ligne. 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 Ma ligne.
Bienvenue ou re-bienvenue dans l'émission etc. Nous sommes toujours en compagnie de Giuseppe Santoliquido et de Christine Orban. C'est l'heure du conseil lecture de la semaine. Et nous partons en Suisse pour notre conseil lecture. Nous retrouvons Catherine Koller de la librairie Bostrich à Bienne. Bonjour Catherine.
Bonjour Lilia.
Alors votre coup de cœur de la semaine ?
Ah oui, cette semaine mon coup de cœur va à grande fin. Un roman de l'écrivain suisse Romain Buffa publié aux éditions Double Ligne. Ce récit de voyage a pour toile de fond les États-Unis et ses grands espaces. Le personnage principal, Jérôme, traverse le pays en train à un rythme qui laisse le temps de capturer les paysages dans toute leur ampleur cinématographique. Des paysages, écrit Buffa, à l'horizon si large qu'ils enferment. Mais bien plus qu'un carnet de route, le roman aborde aussi la mémoire amérindienne, les conditions de travail dans les mines du Nevada. Ces mines, je cite, qu'on creuse et nous creuse, et surtout la relation à la figure du père. Grande Fin est aussi le nom du village suisse reculé où Jérôme a grandi. L'auteur tisse d'ailleurs constamment des allers-retours entre l'Amérique du Nord et la Suisse pour mieux mettre en lumière les travers de ces deux sociétés, le rapport au travail, à l'argent, à la dignité, à la transmission.
Donc si je comprends bien, il y a donc en filigrane, comme dans le roman de Giuseppe Santoliquido, le portrait d'un père, et c'est ce qui vous a touché.
Oui, Lydia, c'est dans ce double mouvement entre les États-Unis et la Suisse que se dessine le destin du père, un homme discret, imprimeur usé par les fins de mois, fan de Bruce Springsteen, qui n'a jamais pu réaliser son rêve américain. À son licenciement, humilié, il n'a plus voulu continuer. Sa disparition, il l'a choisie comme un pied de nez à une vie qu'il n'avait pas choisi. Alors Jérôme part à sa place sur les traces de ce rêve inachevé. On l'accompagne avec émotion, portée par l'écriture de Romain Buffa, fine, sensible, capable de bien dire ce qui fait une famille, ce qui la soude et ce qui peut la défaire. Donc c'est un livre que je recommande à celles et ceux qui aiment les récits d'introspection et de voyage, qui s'interrogent sur les liens familiaux et les injonctions portées par nos modèles de société. Un livre où les grands espaces finalement nous libèrent et ouvrent des horizons nouveaux.
Merci Catherine. Je rappelle le titre « Grande fin » de Romain Buffa aux éditions Double Ligne, qui a reçu le prix de littérature suisse 2025. Et avant de se quitter, je voulais vous poser une question à tous les deux. Giuseppe Santoliquido, vous avez commencé votre prochain livre ?
Je le structure, parce que écrire, j'ai beaucoup de rencontres en librairie, en bibliothèque, et dans la presse, donc ça c'est difficile. Mais j'écris une pièce de théâtre, parce que c'est plus pour moi c'est plus facile.
Ah, on peut savoir sur quoi ou c'est confidentiel?
Ah, mais ça, c'est un couple qui se retrouve, qui a été amant et qui se retrouve quelques années après et qui s'aperçoit, comme nous le disions tout à l'heure, que les attentes qu'ils avaient projetées l'un sur l'autre auraient pu se réaliser, mais par une forme de lâcheté, une forme de conformisme, ne se sont pas réalisées.
Et vous, Christine Orban, c'est votre prochain projet?
Je flirte avec lui, je dois vous dire. Je prends des petites notes, mais rien n'est encore établi. Mais j'ai une vague idée. J'ai une vague idée. Et j'ai toujours l'impression qu'en parlant de ce que je fais, oui, le sujet s'évapore avec les mots. On en parlait tout à l'heure. C'est un huis clos entre mes feuilles et moi. Et je reste enfermée. Je ne parle jamais de ce que je suis en train d'écrire.
Le secret protège... La création.
Oui, mais c'est vraiment ça, la peur que ça s'envole, que ça
parte, disparaisse. Oui, et puis je ne peux pas trouver les mots, c'est en fabrication, et je donne toujours mon livre à l'éditeur étonné. Tiens, Jacqueline Pascal, tiens, Diana.
Et vous réservez vos mots pour le livre,
oui,
c'est très bien.
Oui.
Bah, merci à tous les deux, c'est la fin de cette émission. Merci Christine Orban pour votre roman, Mademoiselle Spencer, publié chez Albin Michel. De votre texte, chère Christine, je retiens cette phrase qui résume tout. Je suis née d'un père violent et d'une mère dérangée. Et je le redis, on ne lâche pas votre livre quand on l'a commencé. Giuseppe Santoliquido, on trouve chez vous aussi une phrase qui m'a marquée. au sujet de votre père. J'ai eu honte de mon père. Aujourd'hui, bien sûr, j'ai honte de ma honte, de la facilité avec laquelle je l'ai mésestimé. Votre récit, Le don du père, est publié chez Gallimard et c'est une merveille de littérature. Merci encore à tous les deux et merci à nos libraires du jour, Aurélie Vergieux, Catherine Collère et Valérie Rochette. Je rappelle que cette émission est en coproduction avec les médias francophones publics en Suisse, en Belgique et au Canada. Merci enfin à mon équipe, Lilian Allôme à la réalisation, Florian Dittre à la technique, Estelle Gap, Virginie Rouzic et Manon Grandière. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.